Bonjour et bon dimanche.
Bonjour.
C'est très beau chez vous, le soleil magnifique, on a les fenêtres ouvertes. Bien, eh bien, on va recommencer on va continuer sur notre étude d'Israël, au sujet d'Israël. Que se passe-t-il en Israël? Et on va commencer par lire Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques 1, 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il n'y a rien qui vous choque? Pourquoi cette épître est-elle adressée aux 12 tribus d'Israël qui sont dispersés dans les nations? Cette épître n'est-elle pas pour nous? Enfin, moi, je suis juif de... mon nom est même dans la Bible. Jean-Paul. Rappelez, je vous l'ai dit. Mais cette épître n'est-elle pas pour les chrétiens non-juifs? Une autre question. Qui sont les 144 000 juifs qui sont marqués du sceau divin? On va regarder ça, Apocalypse 7, versets 4 à 8. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000, la tribu de Nephtali, 12 000, la tribu de Manassé, 12 000, la tribu de Siméon, 12 000, la tribu de Lévi, 12 000, la tribu d'Issacar, 12 000, la tribu de Zabulon, 12 000, la tribu de Joseph, 12 000, la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Amen. Alors, on a les noms des 12 tribus d'Israël. Maintenant, j'ai une autre question. La Nouvelle Jérusalem a 12 portes. Et ces 12 portes, elles ont des noms. Quels noms ont-elles? Apocalypse 21, 12, 13. On peut déjà lire un peu avant, au verset 9. « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes, remplis des sept derniers fléaux, vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Donc c'est l'épouse de l'agneau, c'est la femme de l'agneau. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges et des noms écrits sur les 12, des noms écrits ceux des 12 tribus d'Israël. Ça vous fait pas drôle? Nous, les chrétiens, on dit « Oui, nous sommes l'épouse de Christ. » Et là, il y a 12 portes à l'épouse de Christ. C'est les noms des tribus d'Israël. Tous les chrétiens disent « Alléluia !» Nous sommes l'épouse de Christ. Mais quand ils disent ça, ils disent « Alléluia, nous sommes l'épouse de Christ ». Mais il n'y a aucun... C'est tout des noms des tribus d'Israël. Comment se fait-il que la Nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse de l'agneau, a 12 portes, mais pas une seule pour les chrétiens non-juifs? Vous ne vous posez pas la question? Une autre question, on va lire Matthieu 15, 24. Matthieu, j'espère que je l'ai. Ben non, je ne l'ai pas. Je vais le trouver. Matthieu 15, 24. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, c'est Jésus qui parle, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi Jésus dit-il qu'il était envoyé qu'aux 12, qu'aux tribus perdues d'Israël? Pourquoi? Et nous, alors, les nations? Une autre question, qui sont les brebis perdues de la maison d'Israël? Et pourquoi sont-elles perdues? Oh, ben parce qu'elles ne connaissent pas Jésus. C'est une réponse. Il y en a une autre. Lisons à nouveau la promesse faite à Abraham dans Genèse 22, 17. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, il y a une postérité qui est comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Tout ça, c'est la postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. On commence à avoir une solution. Genèse 26, 1, 5, là, c'est la promesse faite à Isaac, par fils d'Abraham, Genèse 26, 1, 5. Il y eut une famine dans tout le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-là, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Maintenant, on va relire la promesse faite à Jacob dans Genèse 28, au verset 13. Voilà ce qu'il dit. Voici l'Éternel se tenait au-dessus. On peut déjà lire un peu, il eut un songe, il arriva dans ce lieu où il passa la nuit, donc Jacob, car le soleil était couché, il prit une pierre, il en fit son chevet, et se coucha dans ce lieu-là, il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle, et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. » Alors, dans la promesse faite à Isaac, il dit... au verset, donc on a lu 26, 1, 5, il lui dit juste je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, il ne parle plus du sable. Et puis là, il dit ta postérité sera comme la poussière de la terre. C'est plus les étoiles, c'est la poussière, c'est le sable, quoi. Alors, ça peut paraître bizarre, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Des gens, ils se posent pas de questions. Ils lisent, ils disent, mais eux, ils ferment leur Bible, puis ils regardent autre chose. Ah! Là, on voit que la postérité d'Isaac et toutes les familles de la terre seront bénies en Isaac, fils d'Abraham. Et si nous lisons Galates 3,16, voilà ce qu'on trouve. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs postérités, mais qu'il s'agit d'une seule. Et ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Nous comprenons que ce que Dieu dit à Isaac fait référence donc à Jésus, sa postérité. Dieu n'a pas dit à Isaac « à tes postérités », mais à une seule, celle de Christ. Donc, la promesse s'adresse à la descendance génétique d'Isaac et deuxièmement à la postérité qui vient par Jésus-Christ. Dans Genèse 28,14, Dieu dit que sa postérité sera comme la poussière de la terre. On vient de le lire. Maintenant, parlons des fils de Jacob, c'est-à-dire Israël. Vous savez que Jacob, son nom a été changé en Israël. Donc, quand on dit Jacob, c'est Israël. Judas et Joseph sont deux des fils de Jacob, donc d'Israël. Et Judas, le quatrième fils de Jacob. Judas, pas celui qui a trahi Jésus, hein, mélangez pas tout. En Israël, il y a toujours eu des Judas, comme en France, il y a partout des Michel, des Philippe, des Olivier, des Marie-Claire, c'est son anniversaire aujourd'hui. Non, on le fête aujourd'hui, mais c'était il y a 2-3 jours. Il y a donc Judas, c'est pas Judas qui a trahi Jésus, c'est fils de Jacob. Et les enfants de Jacob sont appelés les Juifs, c'est-à-dire judaïques. Les Juifs d'aujourd'hui sont les descendants du patriarche Judas, qui est associé avec Benjamin et Lévi. Et tout ça, ça fait la maison de Judas. C'est ce qu'on trouve dans la Bible, c'est ce qu'on lit dans la Bible. Le 11e fils de Jacob se nommait Joseph. Ça n'a rien à voir avec le mari de Marie, c'était un autre Joseph. Non, mais je le dis parce que je me rappelle ma mère au début quand on était convertis, elle ne savait pas si Moïse était venu avant Jésus ou après Jésus ou avant ou après Abraham. Il y a beaucoup de confusion chez les gens qui ne lisent pas la Bible. Après, ma mère, elle a lu la Bible, elle connaissait ça par cœur, même mieux que moi. Joseph, donc, est le père spirituel des chrétiens. Pourquoi je dis ça? Parce que les frères de Joseph, et surtout Judas, il était un rogne, il était jaloux, et il a voulu vendre Joseph aux Égyptiens pour qu'il devienne esclave. Et Joseph, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était à l'aventure en Égypte, et Joseph il s'en est bien sorti grâce à Dieu, à sa foi, et il a épousé la fille d'un grand prêtre d'Égypte, et il a eu 2 enfants avec cette femme qui n'était pas juive. Et on est juif par la mère. Demandez aux juifs, ils savent ça. Manassé et Ephraïm sont donc des métis, hébreux et non-juifs, et la Bible appelle ces deux fils la maison de Joseph. La Bible appelle ces deux fils la maison de Joseph. Ils ont été élevés à la fois dans la doctrine de Dieu par leur père et dans les doctrines païennes de leur mère. Si vous voulez, on peut lire ça dans Genèse 48, 8, 20, mais c'est très long, vous lirez ça chez vous. Genèse 48, 8, 20. Or, au verset 16 de ce Genèse 48, quand même il y a quelque chose qu'il faut que je vous lise. Au verset 16, il est dit... verset 15 déjà, il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout le mal bénisse ses enfants, donc il parle des enfants de Joseph, qui sont donc des métis, qu'ils soient appelés de mon nom et celui de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Donc, c'est Jacob qui dit ça. Ils sont appelés de mon nom, c'est-à-dire d'Israël. Il les reconnaît comme étant les fils d'Israël. Alors, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup la version française, toutes les versions françaises. Il y a beaucoup de versions françaises. Mais au verset 16, il est écrit qu'ils multiplieront en abondance. Vous avez vu? Je viens de le lire. Mais dans les textes anciens, et heureusement, on a un juif qui s'appelle Chouraki qui a fait la traduction fidèle de ces textes. Il n'est pas écrit « ils multiplieront en abondance », mais il est écrit « ils poissonneront multiples au sein de la terre ». Ah, voilà une clé. Voilà une clé. Et ça, c'est important, car « poissonner », c'est faire référence à ictus. Ictus. Voilà pourquoi aujourd'hui on a mis un poisson là. Parce que ictus, ça veut dire poisson en grec. Et le symbole majeur qu'utilisaient les chrétiens comme signe de reconnaissance, c'était ictus, c'est-à-dire le poisson, pour plusieurs raisons. Quand, par exemple, ils étaient persécutés, ils étaient avec quelqu'un, ils ne savaient pas si quelqu'un était un chrétien ou pas, alors en discutant avec lui, avec le pied, il faisait comme ça, et si l'autre en face faisait comme ça avec son pied, ça faisait ça et ça, hop, poisson. Et ils disaient, bon, j'ai affaire à un chrétien. C'est un signe de reconnaissance. Le premier signe de reconnaissance des chrétiens, c'était pas la croix, c'était le poisson. Et pourquoi ? Parce que ictus signifie poisson, et en grec, le mot ictus est formé de lettres initiales, donc la première lettre ictus, et c'est formé de lettres, ce mot est formé de lettres initiales qui font des mots, qui font un mot en français, ce mot i. Ictus, sa forme, ça veut dire Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Pour ceux qui ont la vidéo, je vous ai fait un petit dessin. Sinon, vous l'avez sur Révélation Bible, Facebook et compagnie. Vous avez Jésus, c'est le Christ, le Dieu, fils, et là, c'est sauveur. Poisson. Et les gens qui connaissent pas bien la Bible, ils disent « Je ne comprends pas, c'est plein d'incohérences. » Ictus est donc un acronyme, on appelle ça un acronyme. À savoir, c'est un mot ou un signe dont chaque lettre porte en elle un sens, de manière à ce que, ensemble, elles forment une phrase. Et ictus, c'est l'acronyme de Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Et Jacob, Israël, a prophétisé sur Ephraïm et Manassé, disant qu'il poissonnerait. Vous avez déjà vu, quand vous êtes en voiture dans les embouteillages, il y a des voitures où il y a un poisson. Ça, c'est des chrétiens. Vous ne saviez pas ça? Vous le saviez? Jésus, toujours dans ce code de la Bible, ne dis pas par hasard « Je te ferai pêcheur d'hommes » dans Luc 5, 10. Non, parce qu'on parle des hommes, des fois des brebis, des fois des poissons. Donc, les fils de Joseph sont prophétiquement les fils de la maison d'Israël qui se sont perdus dans les nations. D'accord ? Le terme « maison d'Israël », il évolue au fil du temps dans la Bible. La Bible n'a pas été écrite en un jour. Dans Josué 17, 17, vous le verrez, vous le lirez, il y a la maison de Joseph, c'est-à-dire Ephraïm et Manassé. C'est la maison de Joseph. Dans Juges 10, 9, la maison de Joseph devient la maison d'Éphraïm. On n'entend plus parler de Manassé. Et c'est depuis là que le terme « maison d'Éphraïm » désigne les 10 tribus du Nord. À partir de là, dans la Bible, la maison d'Éphraïm désigne les 10 tribus du Nord. Dans 2 Samuel 12, 8, Dieu appelle les 10 tribus du Nord « maison d'Israël ». Bien sûr, puisque Jacob avait dit « ils doivent porter mon nom », mais dans Juges 19, ces 10 tribus sont appelées « maison d'Éphraïm », c'est-à-dire la maison de celui qui est le fils de Joseph, qui avait été vendu et qui avait eu des enfants, dont Éphraïm, avec une Égyptienne, c'est-à-dire une femme qui n'était pas juive, qui était des nations. Parler de pêche miraculeuse, de poissons, Jésus montre à ses 12 disciples juifs que par leur propre force, par leurs propres efforts, ils n'arriveraient pas à pêcher la multitude d'Éphraïm. Mais que s'ils lui faisaient confiance à lui, s'ils faisaient confiance à Jésus, ils allaient pouvoir faire une pêche miraculeuse dans cette poissonnerie, puisqu'ils poissonnent. Vous avez saisi, est-ce que vous comprenez maintenant mieux? Il leur montre que s'ils choisissent de s'en remettre à Jésus, la pêche sera une réussite, sera une miraculeuse. Ils auront du poisson en abondance. C'est ce qui se passe dans les nations. Et c'est pourquoi Jésus dit à Pierre à ce moment-là, alors là, il reprend le terme brebis, il dit « occupe-toi de mes brebis » 3 fois. Mais c'était lors de la pêche miraculeuse. Je te ferai pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons, pêcheur d'Éphraïm, mais ce sont mes brebis. Mes brebis perdues d'Israël. Alors, on reviendra sur cela vendredi prochain, Dieu voulant. J'espère que mon message vous a révélé des choses. C'est des choses qui sont tenues cachées et qui sont désormais maintenant rétablies selon ce qui est écrit dans Actes 3, 21, que Jésus reviendrait au temps du rétablissement de toutes choses. Nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses. Dieu a rétabli son peuple en Israël et Dieu rétablit la vérité dans son Église afin que nous sachions quelles sont nos origines et que nous nous préparions à partir avec lui à sa rencontre. En marchant dans l'obéissance, parce que chaque fois qu'ils ont été persécutés, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans l'obéissance. Quand on n'est pas dans l'obéissance, on est persécuté. Qu'on soit juif ou non juif. De toute façon, si on est chrétien et non juif, on est d'Éphraïm. Amen. J'en dis pas plus. À vendredi. Dieu vous bénisse. Au revoir.